Dans le vaste hangar fermé, noir de charbon, et que de hautes fenêtres poussiéreuses éclairaient, parmi les autres machines au repos, celle de Jacques se trouvait déjà en tête d'une voie, destinée à partir la première. Un chauffeur du dépôt venait de charger le foyer, des escarbilles rouges tombaient dessous, dans la fosse à piquer le feu. C'était une de ces machines d'express, à deux essieux couplés, d'une élégance fine et géante, avec ses grandes roues légères, réunies par des bras d'acier, son poitrail large, ses reins allongés et puissants, toute cette logique et toute cette certitude qui font la beauté souveraine des êtres de métal, la précision dans la force. Ainsi que les autres machines de la Compagnie de l'Ouest, en dehors du numéro qui la désignait, elle portait le nom d'une gare, celui de Lison, une station du Cotentin. Mais Jacques, par tendresse, en avait fait un nom de femme, la Lison, comme il disait, avec une douceur caressante. Et c'était vrai, il l'aimait d'amour, sa machine, depuis 4 ans qu'il la conduisait. Il en avait mené d'autres, des dociles et des rétives, des courageuses et des fainéantes. Il n'ignorait point que chacune avait son caractère, que beaucoup ne valaient pas grand-chose, comme on dit des femmes de chair et d'eau. De sorte que s'il l'aimait celle-là, c'était en vérité qu'elle avait des qualités rares de brave femme. Elle était douce, obéissante, facile au démarrage, d'une marche régulière et continue, grâce à sa bonne vaporisation. On prétendait bien que, si elle démarrait avec tant d'aisance, cela provenait de l'excellent bandage des roues et surtout du réglage parfait des tiroirs. De même que, si elle vaporisait beaucoup avec peu de combustible, on mettait cela sur le compte de la qualité du cuivre des tubes et de la disposition heureuse de la chaudière. Mais lui savait qu'il y avait autre chose, car d'autres machines identiquement construites, montées avec le même soin, ne montraient aucune de ces qualités. Il y avait l'âme, le mystère de la fabrication, ce quelque chose que le hasard du martelage ajoute au métal, que le tour de main de l'ouvrier monteur donne aux pièces. La personnalité de la machine, la vie. Il l'aimait donc en mal reconnaissant, la Lison, qui partait et s'arrêtait vite, ainsi qu'une cavale vigoureuse et docile. Il l'aimait parce que, en dehors de ses appointements fixes, elle lui gagnait des sous grâce aux primes de chauffage. Elle vaporisait si bien qu'elle faisait en effet de grosses économies de charbon. Il n'y avait qu'un reproche à lui adresser, un trop grand besoin de graissage. Les cylindres surtout dévoraient des quantités de graisse déraisonnables, une faim continue, une vraie débauche.
Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, pour ce nouveau numéro des Yeux ont des oreilles. Et cela ne vous aura pas échappé, il s'agit du 20e numéro de l'émission.
1, 2, 3, 4, joyeux anniversaire, soufflez dans tes bougies. Si c'était notre fête, on soufflerait aussi. Joyeux anniversaire, que tes vœux prennent vie. Si
c'était notre fête, c'est ton anniversaire.
Et pour cette émission un peu spéciale, nous avons avec nous Camille, de retour depuis quelques mois à Transistor, et qui brûlait d'impatience de revenir dans Les Yeux ont des oreilles. Ça va, Camille ?
Oui, je suis très contente d'être ici, Nicolas.
Alors, on était sûr que tu nous proposerais des idées de thèmes cool, et on n'a pas été déçus. Chers auditeurs, aujourd'hui, pour le bonheur de vos oreilles, on va vous parler des transports, qu'ils soient en commun ou pas, sur rail ou sur roue, ou un peu plus originaux. Mais avant de passer à la lecture d'autres textes, on retrouve l'équipe habituelle de l'IO. D'abord Agère, dont vous avez reconnu la voix tout à l'heure avec un extrait de La Bête humaine de Zola. Bonjour Agère.
Bonjour.
Il y a ensuite Mathilde, qui ne se sent plus, car elle va lire aujourd'hui, enfin, des extraits de peut-être ses deux textes favoris, mais je ne vous spoil pas, vous verrez bien de quoi il s'agit. Mathilde, une réaction ?
Bah oui, je suis très 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 enthousiaste de lire ces textes, j'essaie de les caser dans l'émission depuis le début de l'année, et c'est enfin le moment.
C'est chose faite. Et enfin, la voix de Céline est avec nous, mais pas Céline, qui est partie faire du fleu, puisque cette chose existe. Bon, on va continuer et attaquer la littérature. À toi l'honneur, Camille, pour un texte que nous ne pouvions pas ignorer vu le thème. Il s'agit de Zazie dans le métro de Raymond Queneau. Et dans cet extrait, l'héroïne découvre le métro pour la première fois.
La bouche de métro. Elle sentait fort. Une odeur de poussière. Une poussière ferrugineuse et déshydratée. Une odeur que Zazie juge inédite et qu'elle renifle avec enthousiasme. Un grondement se fit entendre. 30 secondes plus tard, apparurent 2 ou 3 crossmen, les coudes au corps. Puis quelques gens pressés, mais moins agiles. Ensuite les ménagères, enfin des vieillards, pesants voyageurs. Zazie descendit quelques marches et demeura là, plantée au milieu de l'escalier, émue de descendre cette voie sacrée. Un garçon, un peu plus âgé qu'elle, la bouscule au passage en lui demandant si elle pourrait pas se grouiller, non ? Cocu, qu'elle lui réplique. L'autre, suffoqué, doit cependant continuer sa course, emportée par son élan. Il ruminera l'injure toute la journée, et ce sera seulement le lendemain soir qu'il l'aura digérée. Zazie le sait déjà, elle est contente d'elle. Elle reprend la descente interrompue. Chaque marche lui semble nuptiale. Elle est ravie. La voilà dans la pénombre. Elle s'est approchée du guichet. Heureusement que c'est une heure où il n'y a pas trop de monde. Elle s'attarde devant l'affichette où sont annoncés les tarifs. C'est assez compliqué. Zazie hésite de nouveau, humiliée par ses hésitations. Famille nombreuse ou pas? Carnet, billet simple ou carte hebdomadaire? Et la classe? Le premier problème se résout de la façon la plus simple, par l'exercice du bon sens. Zazie est fille unique. Quant aux autres, ce n'est pas une affaire d'argent. La CAD a rapporté à Zazie de quoi se payer 2 ou 3 carnets si elle voulait. Une telle dépense lui paraît seulement inepte, puérile et maladroite. Derrière les petits trous du machinoïde, on s'étonnerait, on poserait encore des questions connes. Elle se décida pour un ticket simple, de première classe. Zazie était économe, mais non avare. Un seul point restait encore à élucider. Fallait-il spécifier la station où l'on voulait aller? C'était peu probable, puisque l'oncle Gabriel lui avait dit qu'on pouvait circuler des heures dans le métro sans qu'on vous demande rien. D'autre part, Zazie n'avait pas étudié le plan. Qu'est-ce qu'elle dirait? Panthéon, Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Obélisque, Notre-Dame? Elle ne dit rien et allongea la monnaie. Zazie enragea de voir que c'était si simple. L'employé ne l'avait même pas regardée et il n'y avait aucune explication à donner. Plus loin, un type découpait des confettis dans des bouts de carton, un type non moins indifférent. Et le royaume souterrain s'ouvrait devant elle. Elle sourit. Il lui fallait encore choisir entre la droite et la gauche. Elle préféra la direction où il y avait le plus de noms. Encore un escalier. Zazie ne se presse pas. Le portillon est ouvert. Un train entre en gare. Le portillon se ferme. Zazie court, essaie de s'insinuer. Pousse, rien à faire, le convoi repart sans elle. Folle de rage, elle se promet bien de ne plus jamais se laisser prendre à cette attrape couillon. Le feu rouge s'éloigne, le portillon s'ouvre. Zazie ne profite pas tout de suite de cette aperture, elle boude un peu. Mais quoi, ce n'est qu'un truc automatique, cette attrape couillon. Alors elle se décide, la voilà sur le quai. La rapidité des opérations métropolitaines fait passer Zazie de l'ébaubissement à l'éberlument, non sans quelque irritation. Mais la découverte de l'indication première classe lui redonne confiance. Elle se place bien au-dessous de la pancarte et d'un pied ferme attend la nouvelle rame. La voilà qui stoppe. Une porte s'ouvre. Zazie fonce, bousculant quelques adultes qui protestent faiblement. Elle bondit sur une place libre, y pose énergiquement ses fesses, le train repart, déjà. C'est merveilleux.
Je suis partie bien à l'heure. J'ai pris le train en direction du cœur. Pas vu le train. À grande vitesse, tu me délaisses, une fille de seconde classe a pris ma place. Chaque fois mon train qui déraille, je ne suis pas de taille.
C'était bien sûr Zazie sur Transistor, plutôt deux fois qu'une. Et c'était à l'instant des rails, voilà. Anna Karénine va en voir des rails, et de près. Mathilde a dû me supplier à genoux pour insérer, non pas un, mais deux extraits du livre de Tolstoï, au prétexte qu'ils se font écho à X pages d'intervalle, voilà, on va bien voir.
La comtesse se mit en devoir de descendre, son fils lui offrit le bras, et tandis que la femme de chambre se chargeait du caniche et du petit sac, le majordome et un porteur emportèrent les valises. Mais comme ils quittaient le wagon, ils virent courir, le visage défait, plusieurs hommes, parmi lesquels on reconnaissait le chef de gare à sa casquette d'une couleur fantaisiste. Il avait dû se passer quelque chose d'extraordinaire. Les voyageurs refluaient vers la queue du train. « Qu'y a-t-il, où cela ? Il s'est jeté sous le train, écrasé !» disaient des voix. Stéphane Arkadievitch et sa sœur, qui lui donnaient le bras, rebroussaient chemin également, pour éviter la foule. Ils s'arrêtèrent, tout émus, près de la portière. Les dames remontèrent dans la voiture, tandis qu'Oblansky et Vronsky allaient s'enquérir de ce qu'il s'était passé. Le train avait, en reculant, écrasé un homme d'équipe ivre ou trop emmitouflé pour entendre la manœuvre. Ces dames apprirent l'accident par le majordome, dès avant le retour des deux amis. Ceux-ci avaient vu le cadavre défiguré. Oblonsky, bouleversé, retenait ses larmes avec peine. « Quelle chose affreuse, si tu l'avais vue, Anna. Ah, quelle horreur !» Vronsky se taisait. Son beau visage était sérieux, mais absolument calme. « Ah, si vous l'aviez vue, comtesse !» continuait Stéphane Arkadievitch. « Et sa malheureuse femme, qui est là, elle fait peine à voir. Elle s'est jetée sur le corps de son mari. On dit qu'il était seul à nourrir une nombreuse famille. Quelle horreur !» Tout à coup, elle se souvint de l'homme écrasé le jour de sa première rencontre avec Vronsky, et elle comprit ce qu'il lui restait à faire. D'un pas rapide et léger, elle descendit les marches et, postée près de la voie, elle scruta les œuvres basses du train qui la frôlait, les chaînes, les essieux, les grandes roues de fonte, cherchant à mesurer de l'œil la distance qui séparait les roues de devant de celles de derrière. « Là, se dit-elle en fixant dans ce trou noir les traverses recouvertes de sable et de poussière, là, au beau milieu, il sera puni et je serai délivrée de tous et de moi-même. » Son petit sac rouge, qu'elle eut quelque peine à détacher de son bras, lui fit manquer le moment de se jeter sous le premier wagon. Force lui fut d'attendre le second. Un sentiment semblable à celui qu'elle éprouvait jadis avant de faire un plongeon dans la rivière s'empara d'elle, et elle fit le signe de la croix. Ce geste familier et de jeunesse, les minutes heureuses de sa vie, scintillèrent un instant à travers les ténèbres qui l'enveloppaient. Cependant, elle ne quittait pas des yeux le wagon. Et lorsque le milieu entre les deux roues apparut, elle rejeta son sac, rentra sa tête dans les épaules, et les mains en avant, se jeta sur les genoux sous le wagon, comme prête à se relever. Elle eut le temps d'avoir peur.
Et oui, je recycle mes virgules musicales, je devrais avoir honte. Mais j'ai cherché autre chose de russe, bon, et honnêtement, je n'ai pas réussi. Surtout qu'on continue en Russie avec Céline, qui va nous faire rêver au rythme du transsibérien, ce train mythique qui traverse la Russie de Moscou à Vladivostok. Il s'agit de la prose du transsibérien et de la petite Jeanne de France de Blaise Cendrars. Profitez-en pendant que je cherche une virgule musicale.
Or, un vendredi matin, ce fut enfin mon tour. En été, en décembre, et je partis moi aussi pour accompagner le voyageur en bijouterie qui se rendait à Karbin. Nous avions deux coupés dans l'express et 34 coffres de joaillerie de Pforzheim, de la Camelot allemande, made in Germany. Il m'avait habillé de neuf, et en montant dans le train, j'avais perdu un bouton. Je m'en souviens, j'y ai souvent pensé depuis. Je couchais sur les coffres et j'étais tout heureux de pouvoir jouer avec le Browning Nickley qu'il m'avait aussi donné. J'étais très heureux, insouciant. Je croyais jouer au brigand. Nous avions volé le trésor de Golconde et nous allions, grâce au transsibérien, le cacher de l'autre côté du monde. Je devais le défendre contre les voleurs de l'Oural qui avaient attaqué les saltimbanques de Jules Verne, contre les Kungdus, les boxeurs de la Chine et les enragés petits mongols du Grand Lama, Ali Baba les 40 voleurs et les fidèles du terrible vieux de la montagne. Et surtout, contre les plus modernes, les rats d'hôtel et les spécialistes des express internationaux. Et pourtant, j'étais triste comme un enfant. Les rythmes du train, la moelle du chemin de fer des psychiatres américains, le bruit des portes, des voix, des essieux grinçants sur les rails congelés, le ferlin d'or de mon avenir, mon Browning, le piano et les jurons des joueurs de cartes dans le compartiment d'à côté, l'épatante présence de Jeanne, l'homme aux lunettes bleues qui se promenait nerveusement dans le couloir et qui me regardait en passant, froissé de femme, et le sifflement de la vapeur, et le bruit éternel des roues enfolées dans les ornières du ciel. Les vitres sont givrées, pas de nature, et derrière les plaines sibériennes, le ciel bas et les grandes ombres des taciturnes qui montent et qui descendent, je suis couchée dans un plaid, bariolée comme ma vie, et ma vie ne me tient pas plus chaud que ce châle écossais. Et l'Europe tout entière aperçue au coupe-vent d'un express à toute vapeur n'est pas plus riche que ma vie. Ma pauvre vie, ce châle, effiloché sur des coffres remplis d'or avec lesquels je roule. Que je rêve, que je fume, et la seule flamme de l'univers est une pauvre pensée. Du fond de mon cœur, des larmes me viennent. Si je pense amour à ma maîtresse, elle n'est qu'une enfant que je trouvais ainsi pâle, immaculée au fond d'un bordel. Ce n'est qu'une enfant blonde, rieuse et triste. Elle ne sourit pas et ne pleure jamais. Mais au fond de ses yeux, quand elle vous y laisse boire, tremble un doux lys d'argent, la fleur du poète. »